faire la rencontre de Perron, Juan Perron. D'abord, un élément qui illustre, qui exprime bien quand même sa personnalité. Elle s'engage en tant qu'actrice de radio. Hein, voilà. Elle crée, elle participe, elle cofonde un syndicat qui s'appelle Association de la Radio Argentine. En fait, c'est un syndicat pour les travailleurs de la radio qui aura une importance nationale. Donc déjà, c'est cet esprit quand même d'engagement et de responsabilité. Et donc elle va y exprimer dans ce mouvement-là, cette association syndicale, en fait ce syndicat, eh bien sa personnalité, encore une fois, qui est faite de lutte et d'engagement. Donc elle va rencontrer Juan Perón, qui participe au gouvernement donc de l'Argentine, qui est un simple secrétaire d'État, qui a un rôle beaucoup plus important que ça. Le président argentin s'appelle Farrel à l'époque, mais c'est un peu un homme de paille, en fait. L'homme fort du régime, c'est Perón. Et le péronisme, disons, qui va s'installer, a pris le pouvoir depuis le 4 juin 1943 par un coup d'État militaire contre l'oligarchie des grands propriétaires, l'oligarchie capitaliste, qui tenait l'Argentine, un régime corrompu. C'est un coup d'État donc militaire. Perón avait fondé le groupe des officiers unis, et c'est ce GOU qui a perpétré ce coup d'État. Mais en l'État, encore une fois, il a, dans l'organigramme, on va dire, un rôle moyen ou modeste, secrétaire d'État au travail. Il a eu d'autres postes de secrétaire d'État. Le président en titre, Farrel, n'est cependant pas, l'apparence, c'est un petit peu l'homme de paille, hein. Perón est l'homme fort. Donc, 15 janvier 1944, c'est la rencontre. Pourquoi ? Un tremblement de terre, une catastrophe a frappé San Juan avec 10 000 morts, à peu près 120 000 blessés. Enfin, c'est une grande catastrophe. Et Eva Perón, avec son syndicat, organise une manifestation de bienfaisance, voilà, un festival. Et le 22 janvier 1944, au cours de ces festivités, spectacle, etc., eh bien, est présent le président de la République, bien sûr Eva, qui est présidente du syndicat, et le colonel Perón, le titre de colonel, je l'ai dit, secrétaire d'État. Et donc c'est cette rencontre, et à la fin de la soirée, eh bien, Juan et Eva quittent seuls la manifestation. Donc voilà, c'est la rencontre, je ne sais pas si on peut dire le coup de foudre, enfin il a à peu près 50 ans à l'époque. Hein, voilà, dès lors, ils vont vivre unis. Elle deviendra plus tard son épouse, et ça sera la grande aventure politique. Et donc, je compléterai un petit peu peut-être la biographie, de Perón, parce que c'est par lui qu'elle arrive, bien sûr, au pouvoir, si on peut dire. Elle va partager le pouvoir avec lui. Donc Perón, donc je l'ai dit, il est né en 1895. Voilà, c'est un militaire. Il a une formation militaire. Il a été lauréat de l'Académie militaire. Donc en 1913, il a été lieutenant-capitaine, puis lieutenant-colonel. Donc c'est quand même un homme instruit, on va dire. Et avec une relative ouverture, il est professeur en 1936, donc à l'Institut supérieur de guerre. Voilà. Et puis, il sera attaché militaire dans divers pays d'Amérique latine, au Chili, et puis aussi en Italie. Ce sera très important. Il connaîtra en Italie, en tant qu'attaché militaire auprès à l'ambassade argentine à Rome, il connaîtra le fascisme de Mussolini et va s'en inspirer. Il va construire, il va suivre des cours également, et construire sa doctrine qu'on appellera le justicialisme ou péronisme, qui est un mélange aussi de fascisme, de socialisme, voilà, où il y a une notion aussi c'est la dictature, mais aussi il y a un côté populiste, bien sûr, il y a un côté, bien sûr, de dictature, mais aussi une forte action en faveur des masses populaires, une forte action sociale, avec la protection des travailleurs. Voilà. Et puis il y a aussi un nationalisme. Le nationalisme, c'est donc de l'anticapitalisme, nationalisme, et sur le plan de la politique internationale, donc je vais dire le culte de la nation et l'indépendance de la nation, ce sera donc le non-alignement. L'Argentine ne s'alignera pas après la guerre sur l'un ou l'autre des blocs, hein, ça sera, il fera partie, alors je ne sais pas si c'est de façon officielle, mais enfin elle sera en quelque sorte non alignée, ça sera ni Washington ni Moscou, voilà. Et donc, et aussi, toujours dans ces données, cet amalgame, enfin, ce mélange d'idées et d'idéologies que constitue le péronisme ou justicialisme, il y a la personnalisation, le culte de la personnalité, comme Mussolini ou Hitler. Hein. Donc, voilà. Et c'est tout cet ensemble, mais cette forte notion, disons, socialiste aussi, au sens social, c'est-à-dire la protection de l'ouvrier, on verra qu'Eva va être l'âme de ce mouvement, ses actions en faveur du monde ouvrier, en faveur aussi des pauvres, voilà. Et puis aussi du féminisme. Voilà. Donc, c'est aussi du. C'est ça, ça se rapproche du national-socialisme. Voilà. Et donc, voilà ce qu'est Perón, hein, et le péronisme. Et donc, par ce coup d'État de 1943, militaire, on verra qu'il va s'éloigner ensuite des militaires, donc il prend le pouvoir. Alors l'Argentine à l'époque, bon, c'est un pays immense, la dimension quasi de l'Europe, alors avec des... Il y a la Pampa avec les gauchos, on a ces images, voilà, et puis ces grandes propriétés, également, c'est devenu une terre d'immigration, une terre d'immigration, alors ça va du tropique nord à la terre de feu, des Andes à l'Atlantique, enfin, c'est presque un continent. Et donc, terre d'immigration, hein, à cette époque, début du siècle, c'était plutôt les États-Unis, mais là, des aventuriers, on va dire, vont tenter fortune en Argentine. Voilà. Donc il y a une grosse main-d'œuvre qui vient aussi s'agglomérer dans les villes, alors notamment des Italiens et également quelques Français, enfin c'est un peu minoritaire, mais aussi des Espagnols, enfin aussi la langue. Hein, bon. Donc c'est un. À l'époque, un peu avant Perón d'ailleurs, c'est une apparence de démocratisation, hein, et c'est une, en fait, en réalité, un régime pourri, un régime oligarchique, capitaliste, et après mars 1929, c'est la crise, on le sait, en 1929, et alors là, l'Argentine qui était prospère et qui exportait beaucoup, hein, je sais pas, le blé, les fruits, eh bien, c'est la chute des exportations. Donc, hein. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a une chute au point de vue de l'économie, et après la Seconde Guerre mondiale, donc l'agriculture plonge et c'est l'industrialisation. Notamment, l'Argentine va se redresser par l'industrie de guerre, hein, voilà, et qui va se substituer à l'agriculture, donc dans les villes, afflux d'ouvriers, d'agriculteurs émigrés qui viennent grossir le prolétariat des grandes villes, notamment autour de Buenos Aires, 3 millions d'habitants en 1947, donc classe ouvrière importante. Voilà. Et donc, vers septembre 1930, donc, l'armée qui va prendre le pouvoir, comme c'est souvent le cas, hein, après ce qu'on appelait la décennie infâme, enfin, ou une décade infâme, où il y a eu ces grands possédants qui étaient au pouvoir, voilà, dans les années 30, ces grands possédants qui pratiquaient la fraude électorale, la corruption, la répression, hein, malgré, encore une fois, une apparence de démocratie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'Argentine aura une sympathie pour l'Axe, hein, ce sera pour Hitler et Mussolini, voilà, mais toutefois de façon tacite, parce qu'elle est quand même en Amérique latine sous l'emprise des USA, qui sont le plus puissant des alliés, quoi, contre Hitler, enfin, avec la Russie soviétique, et donc ça sera, comment dire, un une complicité ou une alliance tacite avec le Hitler, hein, voilà, et Mussolini. Et donc il y a ce coup d'État, je n'y reviens pas, du 4 juin 1943, qui amènera Perón, en fait, et les péronistes au pouvoir, voilà. Et malgré le soutien apporté au gouvernement en place par les États-Unis, et par l'ambassadeur américain, par les fonds américains qui soutiennent le régime oligarchique en place. Donc, neutralité apparente de l'Argentine, tacite, mais en fait, je l'ai dit, pro-nazi, et ce sera le général Farrell qui sera nommé président, mais enfin, comme un homme de paille, en fait, hein, et qui va exercer le pouvoir, en fait, sous Farrell et sous cette apparence. Hein, je ne dirais pas que c'est une baudruche, mais c'est Perón qui est la personnalité forte avec ce titre de secrétaire d'État au travail. Voilà. Donc, on en est là. Et c'est la rencontre donc entre Eva et Juan. Hein. Il a près de 50 ans, elle en a 24, 25, voilà. Et donc, elle va réaliser, Eva, je l'ai dit, ça, elle va se révéler par la radio, et notamment à la radio nationale. Elle va continuer, donc, étant l'amante de Perón, elle va continuer sa carrière radiophonique. Elle va d'ailleurs jouer des rôles un peu plus importants, un peu plus gratifiant pour une actrice. Elle joue des rôles de grandes figures féminines historiques. Hein. Donc, par exemple, elle incarne Elisabeth Ier d'Angleterre, Catherine de Russie. Voilà. Et sa carrière monte quand même professionnelle, mais surtout, elle réalise une émission politique vers un futur meilleur, hein, c'est le titre, qui est carrément un soutien, un porte-parole en quelque sorte du mouvement des idées, l'idéologie péroniste, justicialiste. Alors là, c'est sa voix qui magnétise, je veux dire, les foules, cette voix rock, à la fois rock et chaude, enfin, qui fait des montées en puissance, hein, une boîte tragédienne, et puis qui s'effondre un peu, mais dans ce côté, je l'ai dit, ce côté voix de gorge, voix rock, voix, mais très attachante, hein, voilà, elle fascine. Et donc, sur le fond, eh bien, c'est un discours pour les déshérités, pour les pauvres, pour les chômeurs, pour les sans-abri, et aussi pour les femmes, voilà. Et d'ailleurs, Perón crée aussi pour les agriculteurs, lorsqu'on a le statut de Peon, P-E-O-N, qui est donc également un corpus, disons, de droit pour les travailleurs agricoles. Voilà. Et donc, néanmoins, se déroule une campagne anti-Perón. Hein, voilà. Il ne fait pas l'unanimité. Hein, il y a les forces, on va dire, conservatrices. Eh bien, elles sont très puissantes. Hein. Et donc, c'est anti-Eva, parce que l'origine très modeste d'Eva Perón, et puis elle fut une femme, on peut dire, un petit peu légère, enfin, on le sait, elle se passait, on dit, de théâtreuse à l'époque. Et donc, on l'attaque aussi sur sa vie privée. Et donc, coalition des conservateurs, d'ailleurs, et des communistes. Alors, c'est un petit peu contre nature, une alliance contre nature. Alors, les conservateurs qui sont liés aux USA, hein, qui ont les USA appuient ce régime conservateur, et puis les communistes. Alors, les communistes, pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, il faut dire que Perón, dans la dimension très sociale de son mouvement, hein, au niveau du droit des travailleurs, au niveau des main tendue aux pauvres, enfin, le social, avec un côté un peu paternaliste, eh bien, les communistes voient, si vous voulez, c'est un peu leur précaré, hein, le péronisme leur coupe l'herbe sous le pied, voilà. Donc, néanmoins, ils ont le soutien de la CGT, hein. Le syndicat, donc la CGT soutient à fond Perón, voilà. Et Eva, donc on sait qui incarne ce volet social, voilà. Mais cette coalition des conservateurs, eh bien, va quand même provoquer une première chute, on va dire, une chute de Pérone. Mais on verra que Eva elle va devenir Evita, et elle sera un élément très actif pour faire revenir Pérone aux affaires. Donc nous retrouvons le couple, Juan Pérone et Evita Pérone, après la nouvelle pause musicale.